Philosophie de l'activité artistique.
Par Rimon.
Le 22 décembre 1993, par le père Jean-Marie Laurent, troisième conférence.
Au groupe, il y a une question qui est restée ou pas? Non? Pas de question.
De toutes les façons, vous gardez aussi vos questions. Hein? Et puis, le père y répondra certainement avec beaucoup de joie dès demain. Hein? Et ce sera même une bonne façon, si vous avez encore peut-être une ou deux questions, pour lui permettre justement d'enchaîner. Alors revenons à notre réflexion de ce matin. On essayait de voir comment l'activité artistique est une activité propre à l'homme. On a vu que l'animal en soi ne travaille pas. L'animal, lorsqu'il réalise quelque chose, il exécute quelque chose qui est inscrit dans la nature, dans ses instincts. On a pris l'exemple des hirondelles qui font leur nid exactement de la même façon, où qu'elles soient dans le monde. Hein, tandis que les hommes ne construisent pas du tout de la même manière quand ils sont à Taïwan, quand ils sont à Laredo, quand ils sont à Batouri, ou quand ils sont à Rimont. Ou à ce mur. Bon, donc l'animal ne travaille pas, l'homme travaille. Le travail est toujours la réalisation d'un projet conçu par l'homme et dont il a l'initiative. Donc ce qui caractérise le travail humain, c'est pour cela qu'il est le propre de l'homme. La machine non plus ne travaille pas. La machine, lorsqu'elle travail entre guillemets, elle exécute un programme que vous avez mis en elle. Je me souviens à Yaoundé, quand j'avais mon ordinateur, les enfants me demandaient s'ils corrigeaient même les copies. Vous avez beaucoup de mal à comprendre, comme on disait que l'ordinateur faisait tout, il était persuadé qu'il corrigeait même les copies. Alors c'était difficile d'essayer d'expliquer que non, il faisait ce qu'on lui rendait capable de faire. Donc, le travail est spécifiquement humain. Pourquoi ? Parce qu'il implique l'exercice de l'intelligence et de la volonté. La réalisation du projet se fait dans l'intelligence. C'est l'intelligence qui essaye d'élaborer un projet. L'architecte. Alors, cette élaboration du projet, évidemment, présuppose un certain nombre d'expériences. Plus on est un homme d'expérience, comme on dit, plus on aura d'aptitude à réaliser des projets qui seront viables. Prenons le cas de l'architecte. Vous pouvez avoir envie de faire une maison et puis proposer un certain nombre d'idées à votre architecte. Il vous dira que si vous mettez la cuisine au grenier et la salle à manger dans la cave, ça n'ira pas tout à fait, ça serait un peu compliqué. Donc c'est à cause de son expérience d'architecte qu'il rectifiera un peu vos intuitions sur votre projet. Bon, on avait souligné tout à l'heure que justement cet exercice de l'intelligence et de la volonté permettait chez l'homme de dépasser le déterminisme naturel. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas en nous de déterminisme naturel. Nous avons une nature. S'il y a une nature, c'est qu'il y a, il y a un ordre en nous. Et puis, il y a tout l'aspect instinctif. Mais on a cette capacité de dépasser tout l'ordre de nos instincts. C'est donc par le travail que l'homme est un homo faber. Quelque chose, un être qui fait quelque chose, la dimension de la fabrication. Mais évidemment, l'activité artistique n'est pas le tout de la vie de l'homme. Il ne peut y avoir réduction de la vie de l'homme à l'activité artistique. contrairement à la vision de Marx. Elle n'est pas la seule activité proprement humaine à laquelle toutes les autres se réduisent. Pourquoi, comment affirmer ça? En fait, encore une fois, il faut avoir recours à l'expérience. Et l'expérience me montre qu'il y a différents types d'activités que je suis capable d'accomplir. Alors, il y a effectivement d'abord l'activité artistique, qui consiste toujours, normalement, en la production d'une œuvre. L'activité artistique s'achève toujours dans une œuvre. Il y a des gens qui disent « je travaille beaucoup ». Mais effectivement, ils sont très longtemps, ils passent beaucoup d'heures dans leur bureau, mais concrètement, vous ne voyez jamais ce qu'ils font. Vous ne voyez jamais le résultat de ce travail. En fait, ils ne travaillent pas beaucoup. Ils se donnent l'idée qu'ils travaillent beaucoup. Dans leur bureau ou dans leur cellule, ça dépend comment on voit les choses. Alors, et c'est pour ça même quand on étudie, surtout quand on est au début, le père nous disait toujours, essayez de rédiger quelque chose. Il faut rédiger. Il faut apprendre à rédiger. Si on ne rédige pas, on ne progresse pas. C'est très important. Donc le travail qui est au service de l'activité de l'intellect. On reste dans l'intention. On reste dans l'idéa, comme ça. Donc l'activité artistique s'achève toujours dans une œuvre. Et l'œuvre, est, c'est très important, l'œuvre est une réalité autre que moi. Et c'est pour ça qu'on disait que le travail me permet d'avoir un réalisme. Quand j'ai des problèmes avec mon imaginaire qui commence à prendre tout, il faut que j'aille un peu cultiver dans mon potager pour retrouver un certain équilibre. Pourquoi ? Parce que dans le travail, je réalise quelque chose d'autre que moi. Et cette réalité autre joue le rôle de fin. Le travail est en vue de l'œuvre. L'œuvre est la fin de cette activité qu'on appelle l'activité artistique, ou de l'ensemble de ces activités qui consistent justement à produire cette œuvre. Mais toutes les activités ne sont pas de ce type-là. On a un deuxième type d'activité, donc qui relève de l'activité volontaire. Donc c'est toute la vie affective. Et l'activité volontaire est toujours amour d'un bien. Alors, cette vie affective s'achève dans l'amitié. La perfection de la vie affective est dans l'amitié. Dans l'amitié, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une personne qui s'unit par amour à une autre personne. Donc, dans l'amour d'amitié, je me laisse attirer par une personne qui est mon bien, un bien spirituel. Et cet amour est réciproque, lorsqu'il s'agit d'une amitié. Donc, l'amitié est bien la modalité la plus parfaite de l'activité volontaire. Alors, vous comprenez que dans l'amitié, si je considère mon ami comme une œuvre à transformer, là, effectivement, je confonds l'activité volontaire avec l'activité artistique. Donc, j'aime mon ami pour qu'il soit comme moi. Alors, progressivement, je vais essayer de le transformer pour qu'il pense comme moi, qu'il voit comme moi, etc. Que nous soyons un dans l'uniformité. Alors, cette vie affective, elle est évidemment spécifiquement humaine. Mais elle est spécifiquement humaine, évidemment, quand elle implique un dépassement de la seule activité sensible. Ma vie affective est humaine dans la mesure où elle dépasse l'aspect purement passionnel et instinctif, a fortiori. pas parler d'amitié avec mon petit chat. Bon, là, ce n'est pas une amitié en tant que telle. Donc, dans la vie affective, dans l'activité volontaire de l'homme, qui est spécifiquement humaine, il y a un dépassement, et je dépasse tout en l'assumant, donc un dépassement qui n'implique pas le rejet. Bien au contraire, il y a un dépassement tout en l'assumant de la seule activité sensible, donc toute la dimension instinctive et passionnelle. Mais c'est une activité qui est purement immanente, contrairement à l'activité artistique qui s'achève dans quelque chose d'autre que moi. L'activité volontaire est une activité immanente qui demeure dans l'intériorité. Le but de l'amitié n'est pas l'efficacité. Généralement, parfois, l'amour nous rend même un peu moins efficaces, ce qui nous fait un peu plus rêver. Donc, ce qui caractérise l'activité artistique, c'est cette efficacité. On fabrique une œuvre. Tandis que dans l'amitié, ce n'est pas du tout ça. L'activité volontaire est une activité immanente. Elle demeure dans l'intériorité. Elle n'implique en dehors d'elle aucun résultat. On ne peut pas... Vous voyez, c'est plus facile de juger de son activité artistique, sa capacité au travail en fonction de l'œuvre qu'on produit. C'est beaucoup plus difficile de juger de la qualité de notre amour, parce qu'il n'implique pas une œuvre extérieure qu'on peut, sur laquelle on peut facilement juger, porter un jugement de valeur. Je peux porter un jugement de valeur sur l'œuvre que j'ai produite ou sur l'œuvre que mon voisin a produite, mais c'est beaucoup plus difficile de porter un jugement de valeur sur l'amour, la capacité, la capacité d'aimer d'une personne. Parce que en soi, ça reste quelque chose d'immanent. Alors, il y en a qui extériorisent, mais c'est pas en soi une obligation d'extérioriser ce qu'on possède dans son cœur. Donc, comme je disais tout à l'heure, aimer l'autre, ce n'est pas le transformer, c'est s'unir à lui de manière intentionnelle. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime non pas pour le transformer. Donc, l'autre n'est pas une matière, bien sûr, parce qu'il est spirituel, donc il est une personne. Donc, aimer l'autre, c'est s'unir à lui de manière intentionnelle, parce que l'union n'est jamais substantielle. Vous ne ferez qu'un, oui, intentionnellement. Il n'y a qu'en Dieu où l'amour est tel que l'union est substantielle. Un seul Dieu en trois personnes. Et puis il y a donc un troisième type d'activité, l'activité de connaissance. C'est une activité qui est intérieure et qui est immanente, la science, la philosophie. Une activité intérieure, une activité qui est immanente, qui ne s'achève pas nécessairement dans un effet extérieur. Je ne suis pas philosophe parce que j'ai produit un livre. Bon, quand j'ai produit un livre, c'est plus rassurant pour les autres. Là, ils disent, bon, c'est quand même... quelqu'un qui a réfléchi. Bon, reste à savoir si le livre est vraiment original ou alors si au contraire c'est un plagiat de... Bon, ça c'est une parenthèse. Mais en soi, l'activité intellectuelle n'exige pas en elle-même la production d'une œuvre. Elle ne s'achève pas dans un effet extérieur, elle a pour finalité elle-même. La finalité de la connaissance, c'est la connaissance. La finalité de la connaissance, ce n'est pas la transmission du savoir. Je n'ai pas fait de la philosophie pour pouvoir vous l'enseigner. Normalement, j'ai fait de la philosophie pour être un peu plus intelligent. Essayez. Pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce que je suis et ce que vous aussi vous êtes. Alors, On fait bien la différence entre l'activité volontaire et l'activité artistique quand on prend l'exemple. Oui, madame. Alors, vous voyez, il y a deux choses. Généralement, le professeur pense avant de donner son cours. Donc ça, c'est l'activité purement de connaissance. Et ensuite, il y a la dimension pédagogique, la transmission du savoir, l'enseignement en tant que tel. Hein? Donc, à ce moment-là, c'est un travail. Et on peut dire qu'il y a quand même une certaine œuvre, hein, qui est même une œuvre commune, hein, puisqu'elle se fait dans une coopération avec les élèves. Avec les auditeurs. Alors, vous voyez, donc c'est un bon exemple qui nous montre la différence. L'autre exemple aussi, entre le fait d'écrire un article de philosophie et faire de la philosophie. C'est pas la même chose. Alors, on posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut progresser dans la connaissance sans travailler? Alors, c'est vrai, concrètement, il faut bien faire attention à ces différentes activités qu'on essaye de spécifier, hein, donc de distinguer les unes des autres. Concrètement, dans la vie de tous les jours, elles sont mêlées. Quand je vous posais la question tout à l'heure de savoir si le repas que vous m'avez pas répondu, hein, si c'était une œuvre volontaire, une activité volontaire, ou au contraire un travail. Hein. Manger, est-ce que manger est un travail, hein, ou est-ce que c'est une activité volontaire? Et puis, est-ce qu'il y a une activité de connaissance là-dedans? Ah bon, il y a ce plat de... Par rapport à la dernière fois, bon, on fait les comparaisons, donc l'intellect est en train de s'agiter. Concrètement, dans la vie, toutes ces activités sont mêlées. Hein? Plus ou moins. Hein? Mais il faut faire attention de pas les séparer. En disant, bon, maintenant je suis dans le registre activité du travail, je produis, je pense pas. Maintenant, bon, il faut que je m'arrête de produire parce qu'il faut que je me mette à penser, alors je quitte totalement ce monde de la production pour entrer dans le monde de la contemplation. Alors je pense, bon, etc. Non, tout ça est lié. L'homme est un être un. Il est complexe, mais il est un. Le tout, c'est d'arriver à ordonner ces différentes activités entre elles. Et on les ordonne toujours de quelle manière? Par la fin. Donc quelle est la fin de ma vie humaine. Et c'est en fonction de la fin, hein, que j'arrive à ordonner les différentes activités. Hein? Donc par exemple, la différence entre l'activité volontaire et l'activité artistique, quand vous écrivez une lettre. Alors écrire une lettre présuppose évidemment... Enfin, sauf quand vous écrivez pour demander un emploi, mais quand vous écrivez la lettre à un ami, ça présuppose l'amour que vous avez pour l'ami. Mais autre chose est aimer votre ami, qui relève de l'activité volontaire. Autre chose est maintenant le fait de lui écrire la lettre pour lui exprimer cet amour. Ça, c'est en ce temps-là, c'est un travail. Et pour progresser dans la connaissance, il est bien évident qu'il faut travailler parce que ça c'est dû à notre conditionnement. Si on avait une intelligence intuitive qui saisit, si on arrivait à tout saisir comme ça, par intuition, il n'y aurait pas besoin de travail, ce serait merveilleux. On ferait comme dans le poème de Parménide, hein, il se laisse emporter par la déesse jusqu'à la révélation, et puis il y a une déesse qui lui apparaît, et qui lui dit, bon voilà, il est impossible qu'il ne soit pas, etc. Donc la révélation. Malheureusement, il n'y a pas de déesse qui nous apparaisse ou qui nous emporte pour venir nous faire des révélations. Donc pour qu'on progresse dans la connaissance, il faut travailler. Alors, ensuite, troisième point, quelle est la spécificité de l'activité artistique? On a vu d'abord que l'activité artistique est propre à l'homme, hein, qu'elle n'est pas infra-humaine, mais qu'elle est humaine. Ensuite, qu'elle n'est pas le tout de la vie de l'homme, puisqu'on peut distinguer l'activité artistique, l'activité volontaire et l'activité de connaissance. Maintenant, essayons de préciser quelle est sa spécificité? Donc, toute activité humaine, à partir du moment où elle est humaine, implique nécessairement l'exercice de l'intelligence et de la volonté. Je suis un homme dans la mesure où j'exerce dans mes activités mon intelligence et ma volonté. C'est facile à dire, mais il y a quand même des gens qui sont capables de vivre sans exercer réellement leur intellect et leur volonté. Ils laissent les gens penser pour eux, et puis, niveau volontaire, ce n'est plus le désir du bien spirituel, mais c'est beaucoup plus le désir du bien passionnel. On vit au niveau des instincts, au niveau des passions. Donc, comme on l'a précisé tout à l'heure, l'intelligence et la volonté sont toujours liées dans l'exercice. Je ne peux pas dire que j'accomplis telles activités qui relèvent uniquement de l'intelligence et telles autres activités qui agissent uniquement, qui sont seulement sous la mouvance de la volonté. Non, les deux sont toujours liées dans la volonté, mais avec des ordres différents. On l'a dit tout à l'heure, c'est justement l'intelligence et la volonté sont constitutives de ce qu'on appelle l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est que l'esprit en l'homme? La dimension spirituelle de l'homme, c'est justement l'intelligence donc, qui lui permet d'atteindre le vrai et la volonté qui lui permet d'atteindre le bien spirituel. Donc la personne, donc, ce qui permet d'aimer une autre personne ou d'aimer Dieu. Mettez les anges entre si vous voulez, mais ça, c'est pas philosophique. Mais mettez-les quand même. Alors, suivant les différentes activités, on aura un ordre différent. Dans certaines activités, l'intelligence aura la priorité, si vous voulez, et puis dans d'autres activités, la volonté va prendre sa place. Dans l'activité artistique, en fait, c'est le rôle de l'intelligence qui est premier. On peut dire que l'activité artistique est essentiellement intellectuelle et secondairement volontaire. C'est pas parce qu'on est un artisan qu'on est un idiot. Au contraire. Il y a une intelligence de la matière, etc., qui est tout à fait remarquable chez les grands artisans. Donc l'activité artistique est essentiellement intellectuelle et secondairement volontaire. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui constitue véritablement le centre de l'activité artistique, c'est quoi? C'est l'élaboration du projet. C'est de l'élaboration du projet que vous allez réaliser à travers le travail que va dépendre justement le travail. Et l'œuvre sera la réalisation concrète de votre projet. Donc le projet, ce qu'on appelle l'idée, l'idéa de l'artiste, c'est dans l'intelligence qu'elle se forme. Bien sûr, en lien avec l'imagination, surtout quand il s'agit des beaux-arts. Le rôle de l'imagination sera moins fort quand il s'agit de l'artisan. Parce que s'il veut vous faire des chaussures, mais qu'il s'imagine votre pied, pour faire après, à partir de ce qu'il a imaginé de ce qu'est votre pied une chaussure, bon, ça risque de ne pas aller tout à fait. Donc il y a quand même, chez l'artisan, un contact avec le réel, beaucoup plus grand. Alors, par contre, dans l'activité artistique, dans la production des beaux-arts, évidemment, l'imagination sera... Parce que dans les beaux-arts, c'est la qualité qu'on recherche, et l'ordre dans les qualités. Mais on reviendra là-dessus, enfin, Le Père reviendra certainement là-dessus. Alors, c'est très important de comprendre les conséquences de ce qu'on vient de dire. Si l'activité artistique est d'abord intellectuelle et secondairement volontaire, ça montre quoi ? Ça montre que, en fait, par cette activité, l'homme ne saura jamais atteindre ni s'unir à son bien propre. Par cette activité, l'homme ne saurait atteindre ni s'unir à son bien propre. Le bien propre de l'homme, c'est quoi ? C'est un bien qui lui est proportionné. L'homme est une personne. Donc, le bien propre de l'homme ne peut être qu'un bien spirituel. Or, l'activité artistique se termine à une œuvre. Et l'œuvre qui est produite dans l'activité artistique, par le travail, ne sera jamais une œuvre spirituelle. Vous n'êtes pas encore Dieu. Donc, vous n'êtes pas capable de créer des êtres spirituels. Donc, ce que vous aurez produit dans l'activité artistique ne pourra jamais être votre bien propre. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas votre bien, attention. Mais ça ne sera jamais un bien parfait pour vous. Donc, vous serez obligé, entre guillemets, de chercher ailleurs. Bon, si l'activité artistique est essentiellement intellectuelle, puisque l'élaboration du projet se fait dans l'intelligence pratique, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une pure activité de connaissance. La conception du projet demande toujours à s'achever dans une œuvre. On l'a souligné tout à l'heure, au moins dans notre petit groupe, c'est qu'effectivement, le projet n'est réellement demande de s'achever dans une œuvre. Sinon, il n'est pas véritablement projet. Donc, quand vous avez un projet, en fait, ce projet vous engage, vous pousse à être réalisé. Ça vous arrive certainement de temps en temps, quand vous avez une inspiration artistique, vous avez envie de chanter un poème, alors tout seul dans la campagne, vous vous mettez à chanter un poème, vous avez eu une inspiration et puis qui demande à être réalisé. D'où l'importance de la distinction entre la connaissance pratique et l'intelligence pratique et l'intelligence spéculative. L'intelligence pratique, c'est toujours ce lien de la connaissance avec le réel. Et donc qui implique justement la réalisation, qui s'achève dans quelque chose de produit. Tandis que l'intelligence spéculative, elle, demeure dans son immanence. L'intelligence pratique, elle, nécessite justement cette ouverture, ce dépassement de l'immanence.
Mais la durée, c'est aussi de l'ordre de l'intellect pratique. Alors, quelle est la production de l'intellect spéculative?
Non, ça, c'est une autre. Le problème, c'est la priorité de l'un sur l'autre. Effectivement, donc, on a vu que l'activité est humaine lorsqu'elle présuppose, donc lorsqu'elle implique en soi l'activité de l'intelligence ou de la volonté. Alors, dans l'activité artistique, l'intelligence sera première, la volonté sera seconde. Tandis que dans l'activité volontaire, la volonté sera première. Et l'intellect sera second. Bon, maintenant, dans l'activité donc, de la gérer, même si la volonté est première, l'intellect est présent. Et il va m'aider justement à atteindre, alors c'est là où on parle de l'intellect pratique, il va m'aider à atteindre la fin que je recherche. Bon, là, ce ne sera pas la même chose, mais c'est l'intellect qui va m'éclairer dans ma recherche de la fin. Hein? Donc avec la prudence, hein, ce à quoi vous pensez certainement. Alors, le but n'est pas tout à fait le même, mais c'est toujours l'intellect pratique. Parce que, après, lorsque j'ai élaboré mon projet et que je veux passer à la phase de la réalisation, j'aurai un choix à opérer. Un choix quant à la matière, un choix quant à l'instrument. Par exemple, donc, je ne choisis pas la fin, parce que la fin, elle est déjà, je la choisis, puisqu'elle est dans mon projet. Mais maintenant, c'est quant à la réalisation. Il faut que, pour que je puisse atteindre cette fin, j'utilise la matière la plus adéquate et les instruments les plus adéquats. Alors à ce moment-là, l'intelligence pratique, et là aussi prudentielle, va m'aider justement à choisir le bon morceau de bois, et puis le bon tournevis ou je ne sais pas quoi. Non, avec le bois, ce n'est pas des tournevis qu'il faut, mais ce n'est pas grave. Bon, avant de voir la structure de l'activité artistique, il faut maintenant distinguer les différentes modalités de l'activité artistique. Hein? Pourquoi ? Parce que ces différentes modalités manifestent la richesse et la complexité de l'activité artistique. Donc pour reprendre ce qu'on a vu, on a d'abord vu les positions philosophiques actuelles sur l'activité artistique. Après avoir vu donc Marx et Nietzsche, on a essayé de voir comment l'activité artistique était une activité propre à l'homme. Maintenant, on voit les différentes modalités de l'activité artistique et après, on verra donc la structure. Je n'ai pas peur de me répéter parce que l'important c'est que tout soit assimilé, hein, les bases soient assimilées. Il faut d'abord savoir ce que c'est que A, B et C pour pouvoir dire Bach. Hein? Et comme le père va prononcer des mots comme Bach, il faut d'abord avoir compris A, B et C. Hein? Donc je vous ai dit, ce qui compte pour moi c'est de vous donner un tableau d'ensemble pour situer. Alors on distingue donc les beaux-arts des activités techniques. Les activités techniques qu'on appelle encore les arts utiles. Alors, les beaux-arts, c'est, on l'avait dit, donc une partie de l'activité artistique. C'est l'ensemble des activités artistiques qui s'achèvent dans la réalisation d'œuvres belles et gratuites. L'ensemble des activités artistiques qui s'achèvent dans la réalisation d'œuvres belles et gratuites. Alors, de là naîtront deux grands problèmes philosophiques auxquels vous avez certainement beaucoup réfléchi. Le premier, qu'est-ce que le beau ? Vous y pensez à chaque fois que vous allez à l'office. Hein? Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce que c'est, dire qu'une œuvre est gratuite, est-ce que cela signifie qu'elle est sans finalité? Hein? On vous dit de poser des actes gratuits, la charité fraternelle, des actes gratuits. Est-ce que un acte gratuit, c'est un acte sans finalité? Bon, alors là, donc est-ce que dire qu'une œuvre d'art est belle et qu'elle est gratuite, est-ce que ça veut dire qu'elle est sans finalité? Ou alors, si vous préférez, quelle est la finalité de l'œuvre d'art? Pour certains, ça ne sert absolument à rien. Donc, mieux vaut réciter l'office, là au moins on est sûr qu'il n'y a pas de... Les sensibilités n'étant pas engagées, il y a moins de discussions et moins de déchirements. Bon, les activités techniques, c'est l'ensemble des activités artistiques qui s'achève dans des œuvres utiles. Dont la finalité est l'usage qu'on peut en faire. Alors, la cuisinière se pose toujours la question, est-ce qu'il faut que le plat hein, soit beau, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'il soit utile? Alors, on dit toujours joindre l'utile à l'agréable. C'est la différence entre la recherche de la quantité et la recherche de la qualité. Alors, cette production des œuvres utiles se distingue en deux groupes, hein, si vous voulez. Donc, les activités qui relèvent de l'artisanat, et celles, en fait, qui relèvent de la technique, au sens moderne. En fait, vous voyez qu'il y a un problème là-derrière, quand on fait cette distinction. Un problème, le rapport entre l'artisanat et la technique. L'artisanat réalise une œuvre utile, mais l'artisan, en fait, cherche à allier l'utilité et la beauté. Et c'est pour cela que l'œuvre de l'artisan aura toujours une certaine singularité. Quand vous allez à la sortie d'une usine Peugeot, que vous voulez acheter une 205, vous avez 50 205 devant vous, vous n'allez pas dire non, c'est celle-là que je veux et pas celle-là. Elles sont toutes absolument identiques. Mais quand vous allez chez un artisan, il fait des chaussures différentes, alors vous allez hésiter entre les différentes œuvres qu'il a produites. Même une table, une simple table. Alors aujourd'hui, évidemment, les artisans sont obligés d'être efficace pour pouvoir survivre. Et à ce moment-là, on cherche beaucoup plus l'utilité et on perd la singularité dans l'œuvre. Et c'est le problème de la technique, le développement de la technique. Aujourd'hui, l'artisanat tend à être remplacé par la technique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par technique ? Technique, c'est en fait, c'est très simple, c'est l'ensemble des procédés ou des méthodes pour produire une œuvre. Alors, si on le prend dans cette définition tout à fait simple, en fait, toute activité artistique implique une certaine technique. Quand vous prenez des notes, il vaut mieux savoir écrire. Alors vous avez tous cette technique de prendre des notes rapidement, plus ou moins élaborées. Mais, en fait, aujourd'hui, on assiste à une complexification de cette technique et un perfectionnement de ces procédés qui nous permettent d'être encore plus efficaces. Et l'efficacité devient, enfin la recherche de l'efficacité devient telle qu'on a parfois l'impression qu'on oublie que cette efficacité est en vue de l'œuvre et on cherche l'efficacité à tout prix. Et du coup, on complexifie de plus en plus justement ces procédés d'efficacité. Donc, la complexification et le perfectionnement de ces procédés sont tous finalisés par la seule efficacité. Et donc, les œuvres qui vont en résulter perdent toute singularité. C'est très simple. Un robot va vous faire exactement la même machine. Il n'y aura aucune note d'originalité dans le travail fait par un robot. Alors qu'un travail fait par un homme, impliquera toujours une certaine originalité. Enfin, deux œuvres différentes, faites par un homme. Donc, à ce moment-là, on ne cherche plus à allier le beau et l'utile, on recherche une efficacité de plus en plus grande. Et tout cela est dû évidemment au progrès de la science. Les progrès de la science entraînent les progrès de la technique, mais malheureusement, le progrès de la technique ne se réalise qu'au prix d'un perfectionnement de plus en plus grand de l'outillage et, finalement, d'un appauvrissement, pas toujours, mais quand même de la qualité de l'œuvre. Bien que l'outillage peut permettre aussi parfois une beaucoup plus grande qualité de l'œuvre. Que l'œuvre purement artisanale. Mais il n'y aura pas la même singularité. Alors, de là, évidemment, peut naître toute une réflexion sur le rapport de l'homme à l'outil ou à la machine. Est-ce que philosophiquement parlant, je puis défendre pour la qualité de mon travail le travail du paysan à la machette, ou alors est-ce que au contraire je dois dire que non, ce n'est pas un mal que l'homme travaille sur un tracteur. Mais après, c'est pas tout. Tout le problème de l'ordinateur, tout le problème de et puis d'outillage encore beaucoup plus complexe. On a parfois donc comme j'ai eu l'occasion de le dire, des machines qui deviennent un absolu. Et l'homme devient relatif à la machine. Qu'est-ce qu'un outil ? Un outil, en fait, c'est un instrument qui est produit par l'homme en vue de faciliter son travail. Ce sont des définitions qui sont toutes simples. Mais en fait, quand on les applique à certains outils, on se dit, tiens, c'est plus tout à fait ça. Donc normalement, l'outil, c'est un instrument produit par l'homme en vue de faciliter son travail. Faciliter, c'est-à-dire en vue de le rendre plus parfait et plus efficace. Et moins contraignant. Donc, c'est une œuvre en vue de réaliser d'autres œuvres. Donc, l'outil, normalement, prolonge le corps de l'homme. Il est dans le prolongement, il est l'instrument de l'homme. Il est dans le prolongement du corps de l'homme, plus particulièrement de sa main, pour lui permettre d'exercer une activité artistique plus parfaite. Et alors justement, en se perfectionnant, l'outil devient la machine. Et le problème sera donc de savoir si la machine reste comme le simple outil, un médiateur entre l'homme et la matière. Vous voyez, l'outil, du fait qu'il prolonge le corps de l'homme, maintient une certaine continuité entre l'homme et la matière. Donc l'outil est médiateur entre l'homme et la matière. Alors, est-ce que la machine que vous utilisez est encore simple médiateur, même s'il est assez complexe, ou alors est-ce qu'au contraire, il devient un absolu, et il n'est plus le moyen pour vous de rejoindre la matière. Bon, on continuera plus tard, mais je prenais cet exemple, je crois que c'est en groupe. Vous pouvez avoir un outil qui est très complexe, l'ordinateur, hein, mais qui vous permet de rejoindre plus facilement et d'une manière plus efficace le réel. Vous prenez l'exemple en dernier, donc je dirigeais un collège, mais quand les parents viennent, hein, bon, c'est très simple, hein, vous appuyez sur l'ordinateur, vous avez toutes les notes des élèves de leur enfant dans toutes les matières, vous avez leur comportement, vous avez tous les données que vous pouvez entrer dans l'ordinateur sur votre enfant et sur l'enfant des parents qui sont devant vous. Et du coup, avec eux, vous avez quelque chose qui vous permet de mieux, de poser un meilleur jugement d'existence, justement, sur l'enfant, et savoir, essayer de comprendre son comportement, etc., etc. En ce temps-là, l'outil même très, très complexe, très perfectionné, vous permet de mieux rejoindre le réel. À ce moment-là, il y a un progrès. Mais il y a d'autres cas où l'ordinateur devient une fin en soi. À ce moment-là, ce n'est plus un progrès. Puisqu'il n'est plus le moyen pour vous de rejoindre la réalité. Maintenant, on pourrait parler aussi de la télévision. La télévision pourrait être un moyen de mieux rejoindre la réalité. Puisqu'elle pourrait me permettre de poser un certain jugement d'existence sur des choses qui se passent à 10 000 km de chez moi et que je ne toucherai jamais, que je n'arriverai jamais à connaître. Grâce à la télévision, un petit enfant de Batory peut voir ce que c'est que la neige. Voir entre guillemets, parce qu'il y a toujours l'intermédiaire de la télévision. Mais vous comprenez aussi ce que la télévision peut faire d'une manière négative. Et qu'elle a beaucoup plus tendance à faire.